chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue chez Intégration, l'émission de RPH qui vous présente des gens du monde entier qui habitent dans l'Hérault. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le Malien Noumdramé Dibas. Bonjour Bas.
Bonjour, comment vous allez?
Alors, moi je vais bien. Et vous aussi?
Très bien, je vais bien, ouais.
Alors, Bas, c'est votre nom d'artiste aussi, c'est ça?
Oui, c'est une longue histoire. Bas, c'est mon nom d'artiste, mais c'est un nom que j'ai reçu de mon père.
D'accord.
Ouais.
Alors, votre père, il s'appelait comment?
Mon père, il s'appelait Amadou Dramé. Il était griot du Mali.
Ah, il était griot.
Précisément du pays de Gombe, ouais.
Ok, ok. Alors, parlons un petit peu du Mali. Alors... Le Mali, c'est un peu le double de la France métropolitaine en kilomètres carrés.
Oui.
Ça, je ne savais pas avant. 22 millions d'habitants,
oui,
à peu près. Et la capitale, Bamako.
Oui.
Bamako. Vous êtes de quelle région au Mali?
En fait, moi, je suis né au Mali, dans la 5e région du Mali, qui est une région qui est dans l'est du Mali. C'est d'ailleurs, c'est une zone qui est beaucoup visitée par les touristes du monde entier.
Du sud-est.
Du sud-est, ouais,
oui,
du Mali. Mopti,
oui,
et précisément à Bankass, au pays de Gombe.
Oui, alors parce que là, c'est une région où il y a beaucoup de preuves que c'était avant une culture très, très élevée. Historiquement, très important, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que le pays, bon, là où moi je suis né précisément, c'est-à-dire que je suis, bon, le Mali, c'est vraiment un grand pays, mais il y a beaucoup d'ethnies déjà au Mali, chaque ethnie a un peu sa culture de base, et après il y a tout ce mélange-là, où il y a aussi un mélange entre toutes les cultures, donc, mais là où je suis né, c'est notre histoire, parce que c'est une zone du Mali qui est reconnue par l'UNESCO, par toutes ces organisations qui s'occupent des choses culturelles et historiques. Voilà, donc le pays d'Ogon est connu historiquement au monde, et d'ailleurs qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, avec une reconnaissance de l'ancienne culture du Mandingue, comme gardien de la culture du Mandingue, voilà.
Oui, parce qu'en fait, avant la colonisation, la région, alors tout ce qui c'est le Mali aujourd'hui, c'était très important en mathématiques, astronomie, littérature, des arts, plein de choses que nous, on ne sait pas.
Effectivement, oui, effectivement.
Et la colonisation, alors quand on voit le Mali comme plusieurs d'autres pays en Afrique, on voit que c'était artificiellement fait. Alors, c'est tiré vraiment comme avec un crayon. Alors,
un
vraiment.
Couteau, ouais.
Et ouais. C'était aussi, comme dans d'autres pays africains, on a ignoré que les peuples africains, c'était de l'est à l'ouest,
oui,
et
oui,
pas du nord au sud.
Oui.
Alors, et très souvent, alors, les colonisateurs, ils ont coupé du nord au sud.
C'est-à-dire, ouais, y a eu des tracés qui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en parler parce que ces tracés n'ont pas pris en compte, au fait, les cohésions sociales. C'est-à-dire qu'il y a déjà, quand les colons sont arrivés, il y avait déjà une organisation sociale qu'ils n'ont pas pris en compte. C'était cette organisation sociale qui est le rapport entre les différentes ethnies. Par exemple, on appelle quelque chose Sinangouya chez moi, qui est le cousinage, mais ce n'est pas la forme d'ici. C'est un outil qui permet de dire les vérités, les pures vérités à quelqu'un sans qu'il s'énerve réellement. Donc, c'est par blague ou par... voilà. Donc, ça veut dire qu'on se charrie pour dire les choses. Donc, on est autorisé à se charrier. Et donc, la colonisation est arrivée quand même et trouvé ça. Donc, quand ils ont fait ces séparations de pays, et en réalité, ce qui a été le plus impacté, c'était cette chose-là. Parce que si on sépare des peuples qui avaient déjà un lien de jonction entre leur ethnie, et qu'on ne tienne pas compte qu'on les sépare, que l'autre il est burkinabé, l'autre il est malien, alors que les deux sont cousins dans la structuration sociale du Mandingue. Bon, parce qu'on va parler du Mandingue, c'est l'ancien empire.
Oui.
Voilà, donc l'empire du Mandingue qui a quand même son histoire, qui a quand même sa richesse, qui est quand même à la base de beaucoup de richesses au monde. Si on va à la Mecque, à Rome, tout l'or du château de Versailles vient de cette région du monde.
Oui, c'est
voilà.
Vrai, c'est vrai. Alors, en fait, c'était à l'époque une colonie de la France. L'indépendance, c'était 1960.
Oui, oui.
La majorité de la population vit dans le sud. Dans le nord, il y a le Sahel, il y a le Sahara.
Oui.
C'est difficile pour vivre.
Et effectivement, en fait, le Mali est tellement grand. Il y a une partie sahélienne, c'est-à-dire où il y a peu d'arbres. Il y a une partie saharienne où c'est le désert total. Et c'est de nomades, Touareg, où c'est un peuple qui vivent. Et plus on descend dans le sud, c'est les parties où il y a plus de forêts. Donc là aussi, il y a une plus grande partie de la population. Et c'est d'ailleurs la partie qui permet souvent d'aller et retour pour les autres populations qui sont dans les difficultés, disons, liées à la nature. Parce que c'est tout ça. Mais ils ont quand même aussi acquis des comportements par rapport à ces jaunes. C'est celui qui est Touareg, il est couvert à la tête avec le foulard, avec le turban, qui a un signe aussi. Ceux qui sont dans le centre, le peul, ils ont aussi un signe qui explique exactement ce qu'ils font dans leur vie sociale et culturelle.
Et les Touareg, ils sont beaucoup plus blancs.
Ils sont plus clairs, ouais. Ils sont plus clairs, ouais. Oui. Ils sont plus clairs parce que, disons, l'histoire des Touareg, elle est aussi là aussi. On va aller un peu en Algérie, un peu au Niger. C'est vraiment tous ces peuples-là. Donc, on va parler de la...
Oui, ce sont des nomades qui étaient de l'Est à l'Ouest.
Voilà, voilà.
Exactement comme... Ils sont dans beaucoup plus de pays.
Voilà, exactement comme vous avez dit, la séparation de ces terres-là, on poussait au fait certaines tribus à être isolées.
Et apparemment, alors, les Touareg, ils se sentaient traités injustement. Alors,
injustement ou pas, disons quand la colonisation prenait sa fin, quand les Africains voulaient prendre leur indépendance, disons qu'il fallait qu'ils préparent le retour à leur ordre constitutionnel, à quelque chose qui les appartient. Dans ce cas, il y a eu, voilà, il y a eu des actions menées contre les Touareg qui étaient assez récalcitrants par la question de la colonisation déjà. Et donc, pour l'après-colonisation, parce que l'après-colonisation, pour beaucoup d'Africains, même aujourd'hui, on le voit encore au Mali, on est mitigé entre celui qui a signé avec l'oppresseur et celui qui a... Est-ce que l'indépendance est réelle? Parce que l'indépendance a été prise par ceux qui ont été à l'école du colonisateur. Et donc, s'ils reviennent avec une idée de construction du pays, est-ce que c'est pas... Voilà, donc ça veut dire que la population réelle du Mali, d'où je viens, voilà, a encore des doutes par rapport à ces questions-là.
Est-ce que les problèmes actuels, ça vient aussi un petit peu de ça?
Exactement, ça dit que les Touareg ont été depuis ce temps ciblés. Ils ne sont pas reconnus dans le Mali qui reconnaît être indépendant et qui reconnaît aussi de ne pas l'être. Parce que si on est indépendant, on reconnaît ne pas l'être. Et il y a des peuples qui sont battus tout le temps au Mali. Par exemple, il y a des peuples bobos qui se disent jamais colonisés par des Blancs. Et c'est voilà. Donc, ça joue ce rôle-là de dire, nous, on n'a pas été colonisés. Nous, on a lutté contre l'arrivée des colonisateurs. Et il y en a qui ont dit, nous ne voulons pas de votre pays, soit qu'elle soit colonisée ou pas colonisée. Nous, on veut notre indépendance. Et cela a été quand même conséquent. Mais on n'en parle pas. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on n'en parle pas, qu'on a accumulées pendant des années. Et donc, aux yeux des pays internationaux, les Touareg ont le droit de réclamer leurs droits. Mais aux yeux des Maliens, il faut que les Touareg rentrent dans le clou pour être avec eux.
Ouais, mais en fait, maintenant, dans les années passées, il y avait deux coups d'État en l'espace de 9 mois, en 2020-2021. Et le président Guaita, qui est à la tête du pays, en fait, on dit qu'il est en proie du djihadisme. Et il a perdu le contrôle sur une bonne partie du territoire. Et apparemment, maintenant, de plus en plus, il travaille avec les Russes et avec le groupe mercenaire Wagner. Aïe.
Alors... Écoutez, c'est vrai que ces informations sont à prendre avec beaucoup de synthèse, disons. Beaucoup de synthèse. C'est-à-dire que le Mali a subi des choses qui sont très très graves dans sa vue étatique. Et Donc, il y a eu des coups d'État. Il y a eu un premier coup d'État en 2012. À l'arrivée, ça dit que c'est après la guerre en Libye que les Touaregs sont descendus chez eux. Mais ces Touaregs qui sont descendus chez eux, c'était des Touaregs qui ont été chassés de chez eux pendant la première guerre contre les Touaregs, les rébellions Touaregs, en fait. Donc, ça veut dire que c'était des anciens rebelles qui étaient avec Kadhafi, qui sont revenus avec toutes les armes qu'ils avaient. Donc, ça veut dire que cette imposition de guerre, elle émane que de l'action de la France en Libye. Donc, c'est très clair que les gens doivent vraiment prendre ça en compte. Et qu'on a vraiment des témoignages. Moi, je pourrais même dire des noms. Aller sur Internet voir Robert Dulas, c'est un mercenaire français qui connaît bien ce dossier, qui a beaucoup parlé de ça. Donc, à l'arrivée de ces Touaregs, il y a eu un coup d'État parce qu'on pensait que le président en place a laissé faire, a vendu une partie de la. Alors que lui, qui était opposé à la guerre en Libye, était obligé d'accueillir son peuple qui est parti aussi. Mais ce n'était pas lié à lui. Donc ça veut dire qu'on va se trouver avec des rengaines et disons, des rectifications. Voilà. Et Assimi Goïta, dans tout ça, arrive, c'est un soldat qui a été kidnappé, quand même, par les Touaregs, par les djihadistes, disons, pas encore plus, parce que là, il y a les Touaregs, il y a aussi les djihadistes, qu'il ne faut pas oublier,
Oui, il y a les deux.
et que les États-nations se défendent d'aller défendre la cause du monde face au djihadisme. Mais ceux qui ne savent pas, ils sont arrivés avec deux troubles. C'est-à-dire que le trouble de la rébellion et le trouble du djihadisme. Et savoir se positionner entre les deux. Donc on a des informations qui va aller indexer l'État malien, mais qui n'est pas. Voilà.
Alors, en tout cas, nous, on n'est pas là-dedans. Et on est ici en Europe, on ne peut rien faire. Avant qu'on parle de vous, on va écouter une musique.
Numa beni santon teni he ala uma baba ya laisser son enfant aller loin de toi terre brûlée sol brûlé ciel brûlant où dois aller. Si ton panotara, hey, no pama geni tonga na kunano. Hani na ni geni si, kelelele, kelelele, kelelele. Même le soleil se lève pas au même endroit. Il se couche pas au même endroit. Terre brûlée, ciel brûlant. Tom for my sink curtain in the dead. Lulu, Papa, me chong. Chong, 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 chong. Ah. Ofe me me so. I'm a soldier on the wall. I'm a soldier for the Lord. I'm a soldier for the peace. Terre brûlée, ciel brûlant. Laissez ses enfants aller loin, loin, mon dans la main. Terre brûlée, ciel brûlant. Je me suis fait
cette musique, c'est de vous. Vous êtes musicien.
Oui, oui, oui.
Terre brûlée.
Ouais, terre brûlée, ouais. Terre brûlée, c'est une terre qui ne respecte plus la vie de l'homme qui est dessus. Le ciel, avec le soleil qui tape, on ne sait plus où aller. Et c'est pour ça que les enfants, ils meurent à la mer.
Mm-hmm.
En réalité, ils sont forts, ils sont gentils, ils ont de quoi vivre sur l'Afrique, dans l'Afrique, mais ils partent quand même.
Ouais.
Voilà, parce que sous leurs pieds, il y a le feu, et sur leur tête, le soleil ardent.
Ouais, alors, très actuel.
Ouais.
Bon, bah, alors, dites-moi, comment ça se fait que vous êtes ici en Europe ?
Ouh, longue histoire. Longue histoire parce que, au fait, je suis du pays d'Ogon, comme je disais au départ. Le pays d'Ogon, c'est quand même une zone qui a été beaucoup, beaucoup visitée, et toujours d'ailleurs. Et quand j'étais petit, à l'école, je voyais des touristes qui venaient visiter chez moi. Et vu que j'étais aussi créateur de voitures avec des fils de fer, ben, voilà, j'allais voir ces Européens qui arrivaient, qui venaient me voir aussi, et qui voyait le petit artiste là en herbe. Et donc ça me fait connaître au fait en Europe. Et par la suite, j'accueillais des gens qui venaient visiter, dont des chercheurs, voilà, médecins, géographes, voilà, tout ce qui pouvait comprendre un peu le fonctionnement de l'Afrique, l'histoire, la culture. Donc je me suis intéressé tôt. Et ce qui est l'objet de mon arrivée ici, c'est la curiosité que les gens portaient là-bas. C'est-à-dire que je voyais les Européens qui arrivaient, qui étaient tellement curieux. Et je voulais savoir d'où il venait, quoi. Qu'est-ce qu'il avait, celui qui pouvait lui permettre de faire cette curiosité sur Terre.
Voilà. Alors, et ça vous a rendu curieux vous-même et
Effectivement, voilà. Parce que la curiosité qui t'empêche d'aller travailler pour gagner ta vie est une grosse curiosité. Parce que nous, en Afrique, on est cultivateurs, les saisons sont hyper irrégulières. Saison de pluie, il faut aller au champ. Saison froide, il faut chercher les pailles. Donc, tu n'as pas de temps, en réalité, de partir loin dans un autre pays pour dire, tiens, je vais aller voir de quoi ils vivent. Et ça, c'est quand même une curiosité qui m'a beaucoup touché. Et donc, après, j'ai rencontré, à part des rencontres, et j'ai ma fille qui est née ici. Voilà, j'avais le choix, soit laisser ma fille grandir en France seule, soit être là.
Et la mère de votre fille?
Elle est française, ouais.
Une française, ouais. Alors ça veut dire l'amour vous avez
effectivement,
invité
ouais.
ici.
Effectivement, ouais. Effectivement. Et après, il y avait aussi une question de choix, parce que c'est vrai que d'où je viens, du pays d'Ogon, aller à la capitale et puis venir en France, vivre en France, s'adapter, c'était quand même beaucoup d'efforts à faire. Voilà.
C'était difficile?
Non, je ne dirais pas difficile parce que... On laisse tout le temps un bout de notre culture pour le bout de l'autre culture qui nous accueille. Et donc, le bout de ma culture que je laisse tomber est très important, en fait. C'est-à-dire que le minimum de bout, parce que je suis griot, donc je suis porteur de toutes les cultures en Afrique. C'est-à-dire que je suis le gardien de toutes les cultures.
Est-ce que vous pouvez être griot aussi en France?
Ben, c'est une histoire d'homme. Chaque homme a des signes sur le visage. C'est-à-dire que quand on a une difficulté, elle est signée, apparaît sur notre visage sans mots. Donc le griot est capteur de tout ce qui est sans mots sur l'homme, sur le visage d'un homme. C'est-à-dire qu'on connaît les hommes en entier. Quelqu'un qui souffre, on sait exactement de quoi il souffre. Par le regard qu'il a, par l'expression du visage. Donc c'est aussi une science. Le psychologue, il va te dire, ah bon, voilà, vous avez ça. Et le griot aussi, en regardant les gens, se rappelle exactement dans quel moment ils étaient heureux, dans quel moment ils ne sont pas heureux, et quel est presque l'objet de leur mécontentement.
Alors ça, vous pouvez faire quand même ici.
Partout, voilà.
Un peu. Oui. Et ici, vous avez fait des études ou comment est-ce que vous avez fait?
Quand je suis arrivé, d'abord je suis arrivé ici avec quand même un diplôme et une...
Un diplôme de quoi?
D'agronomie, c'est-à-dire que j'étais technicien en agronomie tropicale. Donc, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas tout de suite travaillé là-dedans. Je travaillais en tant qu'éducateur. Parce que, voilà, étant au Mali, je travaillais avec des projets qui amenaient des Maliens nés ou des Algériens ou des Marocains nés en France qui avaient un peu de manque de ces œufs, qui ne savaient pas d'où ils venaient. Donc, l'État français avait quand même organisé avec SOS Racisme et Banlieue du Monde une espèce de voyage pour ces jeunes. Donc, j'ai coordonné un voyage de 300 jeunes au Mali. Pour pouvoir les montrer un peu l'Afrique d'où ils venaient. Et je pense que c'était dans le cadre d'un projet dans les banlieues pour aider les jeunes à comprendre un peu qui ils étaient. Donc ça, ça a aussi permis, au fait, m'a permis aussi d'une ouverture ici. Donc voilà. Quand je suis arrivé ici, voilà, j'avais deux possibilités à être dans l'art. Parce que dans l'art aussi, il y a le côté art, transmission, art, spectacle, art, voilà. Je suis danseur professionnel, en fait.
Ah, vous êtes danseur aussi.
Voilà, danseur, premier danseur de ballet au jeune au Mali. Et donc, ça fait que voilà, donc ici, je suis arrivé avec quand même un certain bagage culturel. Et oui. Déjà en 96, quand je suis arrivé, en 98 aussi, c'était dans le cadre de l'art. En fait. Donc, je suis venu quand même pour la Coupe du Monde et l'inauguration du Stade de France avec 50 enfants maliens et français.
Vous êtes arrivé ici, dans le sud?
Non, ou... pas dans le sud, à Paris. Paris. Ouais, pour ces invitations de la mairie de Saint-Denis et du comité d'organisation de la Coupe du Monde.
Et comment ça se fait que vous êtes venu ici dans le sud?
J'étais au Mali et la mère de ma fille est venue travailler avec moi.
Elle est héraultaise?
Elle est héraultaise, oui. Et là, elle est rentrée, elle était enceinte de moi et voilà. Et puis, je suis parti après. Voilà. En raccourçant, en fait, tous les péripéties.
Est-ce que vous donnez un peu de votre culture à votre enfant?
Effectivement, oui. Mais par contre...
Vous avez un seul?
Non, quatre.
Quatre,
j'ai
d'accord.
J'ai la grande et j'en ai trois autres. La culture est quelque chose de très, très complexe à transmettre quand on n'est pas chez soi. Mais le moyen que j'ai eu pour le transmettre, cette culture, c'est d'être moi-même face à ce que je vois, face à ce que je suis ici. Et donc, par moments, par mes refus d'accepter certaines choses, ils comprennent exactement d'où je viens. Et donc, je vois dans leur positionnement qu'ils ont un positionnement... Parce que c'est vrai que si on s'amuse à les apprendre la culture là-bas, ils se perdent, en fait. Parce qu'il n'y a aucun repère par rapport à cette culture. Par contre, si on a des comportements humains qui viennent de notre culture, qui nous montrent un peu la capacité d'être avec les autres, c'est-à-dire le lien, le respect, la compréhension, l'acceptation et le non-acceptation des choses font qu'ils voient tout de suite où ils doivent se mettre.
Et vous leur parlez aussi dans votre langue maternelle?
Pas effectivement.
Oh, c'est dommage.
C'est hyper dommage, mais pour moi, c'est un intérêt qui va de leur choix. C'est sûr que d'un côté, je suis griot, hein, on recherche. C'est-à-dire que tous les bouquins de psychiatrie, tout ça, ont été des recherches sur les humains. Et pour moi, c'est une recherche réellement. Et je vois vraiment que mes enfants sont deux fois plus africains que moi.
Ça veut dire?
Ça veut dire qu'ils ont tout ce que moi j'ai perdu un peu d'Afrique. J'ai appris à l'angoisse, j'ai appris le stress ici. Ils n'ont pas ça.
Ah, d'accord.
Alors que le stress, tout le monde sait que c'est ce qui fait qu'on n'aime pas ici. Alors qu'eux, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment cool. Et ça, je pense que voilà, la technique que j'utilisais, c'est de ne pas imposer ce que je suis. Je suis pas nombreux, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis seul. Eux, ils sont combien autour de moi? Donc, je pouvais insister comme d'autres le font, mais vu que je travaille dans les échecs des autres parents, parce que les gamins que je recevais au Mali, qui insultait tout le monde dans la rue parce que tu parles pas ça comme ça, mon père, il te tape, mais il tape le père d'un autre. Et donc, où il va insulter le père d'un autre. Alors que celui, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible.
Et vos enfants, ils étaient aussi au Mali?
Sauf ma grande, oui. Mais elle est partie avec moi il y a 4 ans. Mais c'était quand même la guerre et ce n'est pas les bonnes périodes qu'on aime pour amener nos enfants là-bas. Et surtout, l'Afrique... On entend l'Afrique, on entend la pauvreté, on entend les maladies. Pour eux, c'est délicat de les amener dans un moment où c'est la guerre, où c'est des checkpoints partout. Voilà.
On va écouter un petit peu de musique encore de direct. Vous nous faites un tout petit...
Écoutez, ouais, j'ai pris ma guitare, je vais voir si... Avec ma guitare qui m'accompagne souvent. Are you?
Kori sunya mayi dunya ro Bina faga yani hu mayi dunya ro Kalungana yani le mayi dunya ro Sama kono kono yani le mayi dunya ro Kiki ye tunya ye akara nindiri nindu Na ye fayi dunya Kiki ye tunya ye ye akara nindiri nindu Nunga la ye fayi dunya Kiki tu nya ye akron intrenindo nga la ye fae donuna Mai wiri sunya mai dunyara Mina faga yani le mai dunyara Tulungono yani le mai dunyara Sama kono kono yani le mai dunyara Telingono yani le mai dunyara Tunya ye akron intrenindo nga la ye dunya Kiki tunya ye akron imanindo nga la ye fae dunya
très joli mais vous vivez de la musique
je dirais non et oui dans quelque sorte ça que je suis pas reconnu professionnel de la musique, dans le sens où je ne fais pas que ça. C'est un outil pour moi.
Et vous faites quoi?
Je suis éducateur.
Éducateur.
Ouais, je fais des études pour être éducateur en France. Et depuis 15 ans maintenant, je travaille dans des institutions éducatives, tout confondu. Et voilà, donc je vis de mon travail, parce que la musique, c'est quand même... Voilà, c'est un choix, on peut être musicien, mais ça veut dire que ça demande d'autres efforts. Bon, comme j'ai des enfants et que je tiens beaucoup à la vie familiale, voilà, j'équilibre entre les deux. Voilà.
Et vos enfants, ils aiment aussi la musique?
Ils m'ont surpris. Voilà, c'est-à-dire que mon fils, il vient de faire un titre qui est sur les plateformes. Voilà, voilà. Un jour, il m'appelle, il dit « Papa, je veux que tu viennes mixer mes morceaux ». Et je suis arrivé, j'ai mixé ces morceaux qu'il avait déjà enregistrés seul. Alors qu'il avait des instruments que j'avais achetés, qu'il n'a jamais touché. Quoi. En fait, donc c'est tout cet élan-là aussi, la transmission musicale, ils sont griots. Ils sont griots, ils sont détenteurs de savoir ancestral.
Alors ça veut dire être griot, le papa il est griot, alors...
Tous les enfants sont griots.
D'accord, voilà. Ok. Les filles aussi?
Oui, oui. Mais avec des forces différentes. C'est-à-dire que c'est griot, c'est la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que tes mémoires, ta constitution psychologique, elle est sur la mémoire.
Ça veut dire ?
Que je me rappelle de tout.
Ah, uh-huh.
De tout, mais des détails que tu ne peux même pas imaginer.
Ah, uh-huh.
À des années dans le temps. Mais c'est tout un apprentissage par rapport à la famille qui nous amène à ça. C'est-à-dire que quand tu es à côté de ton père, il te rappelle tout le temps. Est-ce qu'il te rappelle de ça ?
Alors, et ça, vous avez donné aussi à vos enfants?
Eh bien, mes enfants, ils n'ont pas intérêt à oublier les choses qu'on a vues ensemble.
Mm-hmm.
Voilà, parce que ça, c'est les règles que j'ai avec eux. Ce qu'on voit ensemble, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Voilà.
Et votre épouse, elle s'organise bien là-dedans aussi?
Eh bien non, elle est française. Elle est française et je ne veux pas de limitation. Si c'était ça, je serais avec une femme africaine. Parce que l'imitation, c'est quoi? C'est que ça ne m'apporte rien. Parce que je vois souvent certains couples mixtes où on ne reconnaît plus celui qui est de l'autre côté. Ce n'est pas grave, en fait. Quand on a choisi une femme française, c'est une femme française qu'on a choisie. Porter des pagnes pour juste faire plaisir un moment, mais porter tout le temps des pagnes, je dirais non, tu n'es pas habitué. Tu peux tomber. Ma mère, elle a porté tout le temps des pagnes.
Oui.
Ce n'est pas grave. Mais ma femme, je n'ai pas envie qu'elle porte des pagnes parce qu'elle ne pourrait pas... porter des pagnes, porter l'eau sur la tête, faire à manger à son mari, faire tout le travail à la maison, et encore d'autres conséquences qu'on n'en parle pas.
Alors ça veut dire, la mélange, ça c'est l'idéal.
C'est l'idéal, et puis il faut vraiment respecter la part de chacun.
Oui, c'est bien.
Voilà.
Boss, on est à la fin de notre émission.
Mais merci.
J'aimerais bien que vous me dites quelque chose dans votre langue. Alors votre langue s'appelle Dogon?
En fait, ah ben, là aussi, il faut peut-être que je fasse juste... Il y a plusieurs ethnies au Mali.
Oui.
Et du fait de mon début de speech que j'ai dit, il y a le cousinage entre les gens, tout le monde parle la langue de tout le monde. Mais il y a des langues commerciales qui sont les langues les plus parlées, qui est le Bambara ou le Mandinka qu'on appelle.
Et vous parlez...
Moi, je parle Bambara, en fait. Ça dit que,
Ok, dites-moi quelque chose en Bambara.
Dambé.
Dambé.
Ouais.
Ça veut dire ?
Dambé, c'est la limite de tout, toute chose.
Et quelque chose comme au revoir ?
Kambé.
Kambé.
Ouais.
Ah, Kambé.
Ouais. Alors, par contre, le Dambé est hyper important. Le Dambé nous permet d'être des bonnes, très bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est notre limite exprimée, le Dambé.
Ok. Alors, et moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire au revoir, Kambé ?
Oui.
Et merci ?
Merci beaucoup, Kambé. Inche.
Inche.
Ouais.
Oh, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, je vous souhaite tout de bien.
Merci. Merci à vous.